J'ai 45 ans. La seule fois où je suis partie en vacances, c'était 15 jours à Malaga. Et je ne suis jamais repartie en vacances. En fait, j'ai jamais rien vu, quoi. Je suis pas malheureuse pour autant, hein, c'est pas la question. Mais je me dis, arrivée à 30 ans de travail et puis 45 ans, t'as même pas les moyens de partir en vacances.
Depuis le 17 novembre dernier, des milliers de personnes ont occupé les ronds-points de France. Loin des manifestations urbaines et de leurs débordements, ce mouvement a pris racine dans une France peu explorée, où le sentiment de déclassement se propage.
J'ai 55 ans, mais j'ai mes parents qui m'aident de temps en temps, qui m'ont aidé là, pour les fêtes, ouais, bien sûr. C'est pas normal.
Vanessa Descoureaux et Géraldine Allot sont allés à la rencontre de ces citoyens pour qui la vie semble de plus en plus dure. La Nièvre et les Ardennes ont en commun de faire partie des départements dont la population ne cesse de décroître. Dans la Nièvre, un quart des quelques 210 000 habitants a plus de 60 ans. Des retraités qui n'imaginaient pas, après une vie de labeur, être confrontés à des problèmes de fin de mois. À tel point que certains ne sont même pas informés des possibilités d'aide sociale.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
C'est mon ancien propriétaire qui est là. Mes meilleurs vœux.
Bonjour. Bonne année.
Ben, bonne année, oui.
Bonne santé surtout.
Oh là, c'est primordial. Hein.
Bonjour. Bonjour, monsieur.
Allez, on va faire les courses avec Michel Pétillot, 74 ans, retraité de la Poste. Elle touche une retraite de 1 462,20 €.
Vous allez voir les salades. Oui, 99 centimes. Tout ce qui est moins de moins 1 € en général, je crois.
Trois sucrines, trois petites salades.
Voilà. Bonjour. Ça va, c'est pas trop lourd?
C'est bon, je vous remercie. Ça va, vous?
Ça va, ouais.
16,55 €. Franchement, il ouais. n'y a pas grand-chose. Hein.
Et pourtant, j'ai pris dans les trucs les moins chers. Hein. Là, c'est affreux comme ça part vite.
Vous faites tout le temps la réflexion à la sortie des courses en disant, mais j'ai rien dans ce cabas.
Ah ben, l'autre fois, je croyais que j'avais rien dans mon machin. Je suis sortie avec 40 euros. Je me suis demandé d'où ça, j'ai regardé la note. C'était bon. Et pourtant, en essayant de prendre dans les moins chers, on arrive toujours à dépenser beaucoup. C'est pareil, je le mets au minimum du moment que j'ai 19-20. Ça va, je me couvre bien, puis ça y est. Hein.
Tout est calculé.
Ah ben, je suis obligée. Hein. Quand je travaillais, j'avais des bons salaires et tout. Ben maintenant, c'est terminé ça. Hein. Bon, on va faire chauffer un café. Hein. J'ai dit bien mon café. Hein.
Michel Pétillot, vous avez fait toute votre carrière à la Poste.
Oui.
Vous êtes à la retraite depuis 14 ans désormais.
Oui.
Est-ce que j'abuse si je dis qu'il y a un sentiment de déclassement chez vous?
Je le ressens depuis 2-3 ans à peu près. Souvent, je suis dans le rouge dès le début du mois. Que je fasse attention.
Vous faites attention, c'est-à-dire pas de petits cadeaux, pas de petites attentions?
Non. Il y a des choses qui me font envie. Et puis, bon, bah, je me dis que je me verrai plus tard. J'attends.
Et plus tard?
Bah, plus tard, c'est pareil. Parce que comme il n'y a pas d'argent qui tombe autrement que ma retraite, donc j'ai rien d'autre pour améliorer mon confort, ma façon de vivre.
On sort de la période des fêtes. Mm-hmm. C'est compliqué la période des fêtes dans ces conditions.
Ben, disons que j'achète moins de cadeaux qu'il fut une période, et c'est mes vœux qui ont payé mon repas. Et puis j'ai pas pu leur faire de cadeaux cette année. Je peux pas. Je me suis excusée auprès d'eux, mais j'ai pas pu. Et déjà l'année dernière, c'était pareil. Ils offraient les cadeaux, moi j'en ai eu, et je n'ai pas pu rendre ce qu'on m'avait donné.
Quand vous étiez dans la vie active, vous pouviez faire des économies, mettre de côté.
Voilà, c'est ce que j'ai fait.
Ces économies, ouais. Elles sont
et ben,
où
elles
sont
là toutes, et ben, les économies sont parties dans les factures de gaz, les assurances de voiture. J'avais de l'argent de côté, et d'un seul coup, je me rends compte qu'il n'y a plus rien sur mes comptes. Sur mes
livrets. Là, vous avez plus d'économies, là.
Là, j'ai plus rien. J'ai un tout petit peu d'argent sur le livret A, les machins comme ça, mais garde plus. Et là, la facture de gaz va arriver bientôt, au mois de janvier, et ben, j'aurai plus rien.
Là, quand vous payez tout, en gros,
Il vous reste combien?
Eh bien, là, j'ai fait mes comptes. Là, il me reste 19 euros et quelques. Enfin, j'attends une petite retraite le 10 de 31 euros. Donc, il me restera à peu près 50 euros sur mon compte.
Pour tenir jusqu'à quand?
Jusqu'à la fin du mois.
Et au moment où on se rencontre, on est en début de mois.
Et on est le 7.
Il y a une petite quinzaine d'années, quand vous avez peut-être fait un pot de départ à la retraite, quand vos collègues ont célébré la nouvelle vie qui vous attendait, vous vous attendiez à cette vie-là?
Non. Je ne pensais pas à ça, parce que j'avais mis, je vous dis, de l'argent de côté. Donc, pour moi, je pensais durer pendant des années.
Vous vous sentiez à l'abri?
Voilà. Mais malheureusement, quand tout est payé, il n'y a plus rien. Et comme il n'y a pas d'autre entrée que la retraite, je suis avec.
En France, une famille sur cinq est une famille monoparentale et dans 80% des cas, ce sont les mères qui sont en charge de ces foyers. Bien souvent, elles vivent dans une grande précarité. En tout cas, leur quotidien est très difficile et c'est ce qu'on va voir avec Charlotte. Elle a 27 ans, elle est aide-soignante et elle vit toute seule avec son petit garçon de 4 ans, ici à Donzy, dans la Nièvre.
Moi, je vis ici avec mon fils Evan, de 4 ans.
Nous sommes avec Charlotte, qui vient juste de sortir du travail, aide-soignante avec un salaire de 1550 euros, et encore, j'inclus deux week-ends dans ce salaire. Comment on vit avec un petit garçon de 4 ans, avec un salaire comme celui-ci?
Le calcul est vite fait, je pense qu'une fois tout payé, il doit rester un petit peu plus de 300 euros sur le compte, en n'ayant pas fait les courses et tous les à côté, quoi. L'essence, les probables sorties qu'on peut faire. On compte même la baguette de pain. C'est vrai qu'à la fin du mois, dans mon porte-monnaie, je cherche les 1 euro pour la baguette de pain. Alors, je trouve que c'est aberrant, mais bon, une fois les courses payées avec 300 euros, il ne reste plus grand-chose, quoi. Il faut faire le calcul.
Qu'est-ce qu'on lui dit à Evan quand il a envie de choses d'enfant de son âge?
Alors j'essaye de discuter avec lui, après il a 4 ans mais il comprend relativement bien les choses, alors quand je lui dis non, que je ne peux pas, parce que maman elle a pas d'argent, il le comprend, mais c'est peinant pour une mère de devoir dire non à son enfant pour aller au McDo ou parce qu'il a envie de faire une activité sportive mais que j'ai pas les moyens de payer la cotisation mensuelle. C'est même lui qui me dit à un moment donné, il me dit mais je vais payer parce que bon avec ces petites pièces rouges dans la tirelire on connaît hein, on donne tout ça un petit peu de.
Il veut casser la tirelire.
Voilà, il veut casser sa tirelire pour aller au McDo ou faire autre chose, mais bon, mais là plus ça va, plus il comprend que bon quand je dis non c'est que vraiment je peux pas, j'essaye mais je peux pas.
Un ciné, les vacances, c'est possible ça?
Non, un ciné, non. C'est tout de suite de 17 à 20 euros pour deux personnes pour aller voir un film, un dessin animé. Non, j'aimerais bien pouvoir l'emmener, mais je ne peux pas. Et les vacances, non plus. Ça fait, il a été une seule fois à la mer, c'était avec sa belle famille l'année dernière. Mais moi, personnellement, non, je ne l'ai jamais emmené en vacances. La seule sortie de 2018, c'est le parc d'attractions, le PAL. C'est la seule sortie extravagante que j'ai pu lui offrir en 2018.
Tout ça en travaillant, tout ça en ayant un emploi.
Oui, tout à fait, oui. On travaille pour survivre. Moi, comme je dis, je vais au travail pour essayer de survivre et de donner un minimum que je peux donner à un enfant. Après, j'ai envie de dire que je ne regrette en rien le choix d'avoir un enfant, mais c'est à refaire avec les conditions de vie actuelles. J'aurais pas d'enfant, je me dirais quel avenir je vais lui donner. Moi, mon enfant, j'ai aucun moyen de me dire que dans 10 ans, ma situation se sera améliorée, que je pourrai lui payer ce qu'il aurait envie ou les études qu'il aura envie de faire. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis incapable de répondre à cette question. Je suis incertaine de son avenir. Moi, je sais que j'ai du travail. Je suis en CDI, tout ça, tout va bien. Mais je ne lui assure pas son avenir à lui alors qu'il a que 4 ans. Donc c'est compliqué.
Bonjour. Je ne pouvais pas venir tout seul.
Je savais même pas que vous alliez venir déjà.
C'est vrai, d'accord. Bon, c'est pas comme ça.
Il y a des gens qui attendent. Bonjour, Evelyne, retraitée.
Bonjour, Vanessa. Bonjour, Amandine.
Alors, on a ramené un panel.
Bonjour. Voilà. Il y a des amis, il y a des retraités.
Tu
Alors, il y a un petit groupe de gilets jaunes qui nous a rejoints dans le salon de Charlotte, puisqu'elle-même a apporté ce gilet. Et parmi eux, le plus loquace, Émilien, 35 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire qui explique pourquoi vous avez rejoint ce mouvement?
Moi, je suis restaurateur. Donc, j'ai ouvert un restaurant il y a ça 2 ans, suite à des problèmes personnels, donc notamment un divorce. Mais bon, ça, c'est des problèmes personnels. J'ai arrêté mon activité. Et il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai dû faire une liquidation judiciaire et que je me retrouve avec des problèmes financiers qui sont énormes. C'est tout simplement qu'à un moment, je recevais plus de factures que je ne gagnais par jour. Pendant longtemps, on m'a dit « oui, maintenant tu es patron », on m'a mis sur un piédestal, mais patron, ça n'a pas empêché que je suis ni plus ni moins qu'un prolo comme tous les autres. Il a suffi de 2 semaines ou 3 semaines où je puisse pas payer mes factures pour que je me retrouve au fin fond du trou et que voilà, aujourd'hui je suis au RSA, j'ai 3 enfants.
Voilà. Ce que vous dénoncez, c'est la violence d'un système, c'est-à-dire la dégringolade, mais sans fin du statut de restaurateur avec les risques que ça implique à aujourd'hui un papa avec 3 filles à charge qui est au RSA, c'est ça.
Pour moi, la vraie violence, elle est là, c'est que c'est pas une violence physique de se confronter à des CRS ou des gens comme ça. La vraie violence, c'est la vie de tous ces gens que j'ai rencontrés dans le rond-point où j'étais à Maltaverne. C'est subir de pas pouvoir finir les fins de mois, d'avoir ses enfants et de pas savoir comment on va pouvoir leur donner les chaussons que l'école nous demande. Ou voilà, la vraie violence, elle est là aujourd'hui. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas.
Vous dites ça ne marche pas, et pourtant. Comment ça marche malgré tout?
C'est de la débrouille. Moi, aujourd'hui, je suis obligé de faire des poubelles, je me débrouille, je fais du bois, je fais du black, j'ai pas honte de le dire, et de toute façon, maintenant, je risque rien, vu que maintenant, je suis insolvable, fichier Banque de France et tout ça, donc il n'y a pas de problème, je vais bien le dire. Et oui, on est bel et bien en marche, mais en marche arrière. Mais je reste très optimiste parce que je me suis retrouvé dans un groupe de gens que je connaissais pas avant et la solidarité revient. C'est super important. La solidarité n'a jamais été aussi importante que maintenant. Et ça, faut le dire, c'est très important.
Au revoir, Charlotte.
Ça va, merci.
Au revoir, Vanessa.
Au revoir.
Ici, c'est la gare de Nevers et à vrai dire, elle représente assez bien l'un des maux de la ville, c'est qu'elle est enclavée. Elle est très mal desservie alors que pourtant, dans les années 80, quand la ville, et même au sens plus large, quand le département était choyé par Pierre Bérégovoy, ancien maire de Nevers, et par François Mitterrand, ancien maire de Château-Chinon, et bien à cette époque, on parlait même d'un TGV qui arriverait jusqu'ici. Il n'en est rien aujourd'hui, et bien au contraire, les liaisons pour Paris, par exemple, sont assez rares, en tout cas elles sont parfois chaotiques, parce qu'il faut bien reconnaître que la ligne n'est pas toujours très bien entretenue, parce que pas très rentable. Quant à la route, Nevers est dans un cul-de-sac autoroutier tout au bout de la 77.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Nous sommes dans les locaux du Secours Populaire, précisément dans le local où sont stockés tous les colis alimentaires. Alors, dans la distribution de colis alimentaires, il y a notamment du lait, des lentilles, de la semoule, des pâtes, des céréales aussi pour le matin.
Deux pièces de légumes. Est-ce que je
vous mets et des légumes frais.
Dedans
ouais. Et des fruits également.
Bonne année.
Bonne année, monsieur.
C'est tout bon?
Oui, c'est tout bon.
Je vous rends votre petit papier.
Vous êtes combien, 2?
Ça fait 10 euros, monsieur, s'il vous plaît.
Merci, madame.
Bonne journée, au revoir.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
C'est pour une personne.
Une personne.
Donc je vais vous redonner des colis pour 3 mois. Hein,
Et au bout du troisième, là, vous reviendrez avec le papier de l'assistante sociale,
voilà. Hein,
qu'on revoit. Mais si jamais vous l'oubliez ou autre, vous venez quand même nous voir là.
Hein. J'ai eu des petits soucis financiers par rapport à ma perte d'emploi et une surcharge de factures qui m'est survenue durant cette période. Et je me retrouve ici actuellement.
Pour la première fois de votre vie ?
Pour la première fois, au début, ouais, j'étais un peu réticent à le dire. Après, bon, bah, par la suite, je l'ai dit, quoi. Il n'y a pas de honte, il n'y a plus de honte.
Il n'y a plus de honte, ça veut dire quoi, ça ?
Ça attaque tellement de personnes à l'heure actuelle que c'est plus de la honte, ouais.
C'est banal ?
Ça devient banal, oui. De se retrouver ici, ouais. Ça fait même peur, ouais, je dirais.
Merci Thomas pour votre lettre.
Bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Allez, bonne soirée.
Merci, au revoir.
Et voilà. On va repasser voir Ingrid là.
Alors, je suis Ingrid Joigneau, je suis secrétaire départementale et directrice départementale du Secours populaire de la Nièvre.
Alors, la Fédération de la Nièvre suit à peu près 4400 dossiers, ce qui équivaut à un peu plus de 11 000 personnes. Qui sont-elles, ces personnes ?
Alors, ces personnes accueillies sont très larges, hein, puisque nous avons des familles monoparentales et puis des retraités, beaucoup de retraités et des jeunes qui sont en situation de pauvreté et de précarité. Alors des retraités que l'on suit depuis déjà au moins 4, 5, 6 ans, c'est pas une découverte. Des retraités qui avaient aussi une situation il y a quelques années, mais aujourd'hui, bah, leur situation c'est un peu appauvrie. Ces familles de retraités aident leurs enfants, leurs petits-enfants. Parfois nous avons aussi des donateurs retraités qui nous disent « Aujourd'hui on ne peut plus vous donner au Secours populaire parce que nous aidons notre famille ». Et puis avec la CSG-RDS qui a augmenté, ben on est obligé de payer nos impôts et on ne peut plus vous donner au Secours populaire. À une époque, nous avions déjà des personnes retraitées dans nos permanences d'accueil, mais pas tant qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait un certain frein. C'était une population, un type de population qui n'osait pas franchir la porte des associations parce qu'ils n'avaient jamais rien demandé de leur vie. Et pousser la porte, franchir la porte du Secours populaire ou d'une autre association, c'était compliqué pour elle. Aujourd'hui, il n'y a plus le choix.
Parmi les gens qui viennent ici, que vous accueillez ici, beaucoup de familles monoparentales, de retraités également, c'est-à-dire de publics, entre guillemets, qu'on a beaucoup vu sur les ronds-points, engagés dans les gilets jaunes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a étonné ?
Alors non, moi j'ai pas du tout été étonnée que les personnes accueillies ou même les bénévoles du Secours populaire rejoignent les ronds-points. Il était évident qu'à un moment donné, ça explose. Les familles que l'on accueille depuis des années, qui n'y arrivent plus, qui ne peuvent plus donner à manger à leur gamin, ou tout simplement finir la fin du mois, ne plus pouvoir passer la voiture au contrôle technique, ne plus pouvoir mettre du carburant pour emmener l'enfant à l'école parce que tout le monde ne bénéficie pas de transport commun.
Donc c'est une colère qui ne vous a pas surprise ?
Ah ben non, pas du tout surprise. La colère pourrait s'exprimer un peu plus fort parce que c'est pas possible de vivre dans des conditions pareilles aujourd'hui.
Nous retrouvons Michel, retraité de la Poste, âgé de 74 ans. Rendez-vous avec elle ce soir pour l'un des très rares loisirs qu'elle peut encore s'accorder. Mardi soir, ses cours de danse country.
Ça me fait du bien, ça me détend et ça m'évite de penser à plein de trucs. Pendant qu'on danse, qu'on écoute la musique, on ne pense pas à autre chose.
Ça coûte pas cher comme loisir, vous pouvez encore vous le permettre ?
Non, c'est pas cher, oui. Oui, je peux encore me le permettre.
Ça, vous y tenez, à votre cours, là, vous y tenez ?
Ah oui, le mardi et le jeudi, j'y tiens, oui.
Ah oui, deux fois par semaine,
oui,
c'est
ça ? Oui, le jeudi au Banlay, oui. Mais oui, j'y tiens, ça.
Donc, on a fini la première section, pied droit croisé devant le pied gauche. Donc, on a pointe à l'instant. Rock et cross, côté, derrière, côté, devant, d'accord ?
Eh ben, moi ça ne me dit rien du tout. Je ne me rappelle pas l'avoir appris celle-là.
Si, en fait, nous l'a montré juste avant Noël.
On fait le complet. Pointe à l'instant,
Je travaille sur Cône-sur-Loire, je fais 49 km par jour, le matin puis le soir. Et donc je suis dans le problème des 1 000 et quelques euros qu'on gagne par mois et que j'arrive pas à finir les fins de mois.
On a suivi Michel, retraité, qui a du mal à finir les mois. Vous, vous êtes actif et c'est le même constat, la même difficulté.
Chez Carrefour, et puis c'est le même problème. Hein. De toute façon, on a beau avoir, bon, on a des primes, on a le 13e mois quand même, mais bon, et les fins de mois sont dures parce que bon, l'essence. J'ai une voiture qui consomme pas mal d'essence. Je mettais là, il n'y a pas longtemps, 300 euros par mois pour aller au boulot. C'est pas normal.
Donc vous avez rejoint spontanément le mouvement des Gilets jaunes. Ça vous a parlé tout de suite ?
Tout de suite, oui, ouais, tout de suite. J'étais sur les ronds-points parce que bon, puis j'en ai parlé avec d'autres personnes sur les ronds-points, puis je trouvais ça. On voyait même des patrons qui étaient sur les ronds-points en fait. On voyait de tout. On fait des sacrifices, hein, des fois la nourriture. Mais après, on sort quand même tous les week-ends. Parce que bon, on va dans des balconeries qui ne nous coûtent pas cher. Ça vaut 6 euros l'entrée. Il n'y a que ça quoi, qui nous divertit, puisque qui nous fait oublier la semaine qu'on a passée au travail. Et moi, j'en ai besoin de ça. Ouais.
Le but en venant ici, le mardi soir, c'est de se vider la tête, de ne pas penser justement à ne compter que les pas et pas le budget, c'est ça ?
Ben c'est tout à fait ça, ouais. C'est vrai que la country, on évacue tout en fait, on pense qu'à la danse en fait. Et puis c'est très important je pense, parce que la semaine tu penses toujours, même la nuit d'ailleurs, tu penses toujours si tu vas arriver à bien travailler demain et puis à arriver à la fin de mois. Hein. Heureusement, il y a toujours les parents qui sont derrière. Ouais. Même moi, hein, j'ai 55 ans, mais j'ai mes parents qui m'aident de temps en temps, qui m'ont aidé là, pour les fêtes, oui, bien sûr. C'est pas normal. Et moi, quand je peux, j'aide mes enfants. Après, c'est comme ça, c'est la nouvelle vie, je pense.
S'il y a des soucis, vous n'hésitez pas à vous le dire. Allez, on y va. Allez, 7, 8.
Au nord-est du pays, à Charleville-Mézières, le taux de chômage est de près de 24%. Actuellement peuplée de 46 000 personnes, la ville de Rimbaud a perdu 11 000 habitants depuis 1990. Dans ce département rural des Ardennes, la mobilité est un enjeu quotidien, d'où la forte adhésion recueillie par le mouvement des Gilets jaunes, partie de la hausse annulée depuis, de la taxation du carburant.
Nous sommes à Ville-sur-Lume, à l'est de Charleville-Mézières. Il est 7h du matin et nous avons rendez-vous chez Anne et Vincent. Elle est secrétaire de mairie, il est agriculteur et ils ont 2 enfants.
Allez-y, entrez. Vous avez le comité d'accueil.
Bonjour.
Bonjour les enfants. Heureusement que vous venez parce que d'habitude ils ne sont pas tout à fait levés.
Hein. Qui est Gabi ? Et toi ?
Allez, dépêchez-vous.
On va pas passer.
Allez, pantalon, t-shirt, pull, propre, chaussettes.
C'est la course comme tous les matins.
C'est de la folie douce, hein. J'arrête pas, je deviens folle dingue le matin. C'est pour ça que j'apprécie les vacances. Les vacances, pour moi, c'est le matin, c'est ne pas courir. Rien que ça, moi, je suis ravie.
Vous êtes partie pendant les fêtes un petit peu ?
Non, 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 c'est une mission impossible, ça. On rêve d'un Noël blanc à la montagne. Peut-être que ça arrivera un jour, mais non, là non.
C'est quand la dernière fois que vous avez pris des vacances ?
C'était en juillet, 14 au 21 juillet. C'était en Bretagne, c'était super. Les gamins n'avaient jamais connu les vacances en fait. On n'était pas partis depuis 11 ans, 12 ans.
Voilà. C'est la première fois que tu partais en vacances ?
C'était la première fois qu'il... Ouais. Enfin, on est déjà parti quelques jours chez les cousins, 1, 2, 3 jours.
Ouais. Jamais une semaine.
Voilà. Bon, on va déjeuner.
Donc là, sur le frigo, il y a un dessin de Gabriel. C'est un tracteur et en dessous, il y a écrit « Tu es le meilleur papa ». C'est toi, Gabriel, qui a fait ce dessin ?
Oui. Tu veux quoi, toi ? Tu mettais là, Gabi ? Un casse-croûte ? Un jus d'orange ?
Donc là, nous sommes avec François, le fils aîné d'Anne, qui nous emmène voir son papa, qui est en train de traire les vaches. Là, t'as mis tes grosses boîtes pour la boue.
Ok,
Bonjour.
Vous êtes Vincent.
En chair et en os.
Levé de bon matin.
Comme tous les matins. Samedi, dimanche. Noël et Nouvel An.
C'est l'heure de la traite.
C'est l'heure de la traite, tous les jours. Aux environ 6h30, 7h, jusqu'à 8h. Voilà.
Vous avez combien de vaches?
50 vaches laitières.
Il est 9h, on est rentré chez vous, Vincent, c'est l'heure du petit déjeuner.
La traite est faite, les veaux ont bu. Maintenant, c'est l'éleveur de faire la pause une demi-heure. Et après, je vais soigner toutes les bêtes, les vaches et les jeunes, tout le monde, jusqu'à midi.
Et vous faites aussi des céréales?
60 hectares, ouais.
Vous êtes tout seul à tenir l'exploitation?
Ouais. J'avais un salarié qui est parti il y a un an et demi. Et aujourd'hui, je suis tout seul.
Pourquoi vous ne réembauchez pas un salarié?
Parce que le coût est très très cher par rapport aux produits agricoles qu'on vend sur le marché.
Ça coûte trop cher d'embaucher un salarié?
Ça coûte trop cher d'embaucher un salarié.
Sur une exploitation comme celle-ci, vous arrivez à tirer quoi comme revenu mensuel pour vous et votre famille?
1000 euros par mois.
Et vous travaillez combien de temps par semaine?
Entre 70 et 80 heures. Aujourd'hui, les prix agricoles sont restés au même prix qu'il y a 25-30 ans. Moi, j'appelle ça des prix d'après-guerre. Avec les charges qui ont augmenté de 40-50%, peut-être 50%.
Vous, le prix de l'essence, ça représente quoi dans votre budget?
Pour les machines agricoles, autour de 15 000 euros par an. C'est énorme, oui.
Est-ce que vous vous reconnaissez dans le mouvement des Gilets jaunes, dont on parle beaucoup en ce moment?
Tout à fait. Ils sont comme nous. Hein. Tout le monde travaille, je ne dis pas jour et nuit, mais bon, à la fin du mois, il ne reste rien. Des fois, on se demande pourquoi on se lève tous les jours pour aller travailler. Qu'on serait aussi bien chez soi à ne rien faire. Mais ce n'est pas dans mon tempérament. Il faut que je me lève puis aller travailler. Même s'il n'y a pas grand-chose à la fin du mois. Mais des fois, on a quand même le sentiment pourquoi on fait ça. On ne demande pas à s'enrichir. On demande à ce que nos produits soient payés correctement. Qu'on puisse vivre de notre métier.
Si vous aviez le président Emmanuel Macron devant vous, qu'est-ce que vous lui demanderiez?
De baisser les charges et de faire attention... toutes les importations de denrées alimentaires qui arrivent de l'extérieur. Tous les pays étrangers n'ont pas les mêmes charges que nous, n'ont pas les mêmes normes sanitaires et qu'envahissent tous les étals de supermarchés. Même le lait, beaucoup de lait arrive de l'étranger, pays de l'Est. Faut arrêter tout ça. Et qu'ils nous disent franchement, on ne veut plus d'agriculteurs en France. Mais qu'on ne laisse pas souffrir le monde agricole comme ça.
Et si vous aviez plus d'argent, qu'est-ce que vous feriez?
J'en ferais profiter ma famille. Partirai plus souvent en vacances. En France, la France est belle.
Il y a un endroit où vous aimeriez aller?
Sud-Ouest, puis la Corse.
On va voir Anne, qui est donc à son travail, à la mairie de Saint-Marceau.
France Inter, Interception, le magazine de la rédaction.
Bonjour Anne.
Ça va, ça a été?
Oui.
On est avec votre mari.
Oui.
Je vais passer à la mairie.
Donc voilà la mairie.
Donc Anne, on vous retrouve ici en mairie de Saint-Marceau. Vous avez 46 ans. Depuis combien de temps vous êtes secrétaire de mairie?
26 ans.
Depuis que vous avez commencé à travailler?
Oui. Beaucoup d'intérim au départ, et puis j'ai fini par passer le concours il y a 18 ans.
Donc vous avez le statut de fonctionnaire?
Oui, tout à fait.
De catégorie?
C.
Et vous gagnez combien par mois?
1500 euros.
Votre mari gagne 1000 euros
de
revenus mensuels. Mmh. Comment vous vous en sortez avec deux enfants?
Il n'y a rien qui dépasse, je dirais. On a notre budget, on fait avec. On a un toit, on a chaud, on a ce qu'il faut, on ne manque de rien au quotidien. Donc après, c'est sûr que on aimerait toujours avoir mieux, plus, faire des travaux, mais pour l'instant, on fait avec ce qu'on a.
Quels sont vos postes de dépenses les plus contraignants?
Les courses. comme tout le monde, je pense. Quand on passe à la caisse au supermarché, on le sent.
pour 4 personnes. C'est assez lourd, hein. C'est 150-200 euros par semaine pour remplir le frigo. Après, il y a un bon plan, c'est le drive. On n'est pas tenté par les rayons loisirs ou vêtements ou voilà. C'est les produits frais, les fruits, légumes, les yaourts, le gros poste en fait.
Vous êtes propriétaire de votre logement.
Mmh.
Qu'est-ce que vous devez rembourser ?
800 euros par mois. En fait, c'est une maison de famille, mais mon mari l'a racheté à ses parents il y a 15 ans à peu près. Donc le prêt est encore en cours et sera terminé dans 6 ans. Donc il y a 800 euros qui tombent tous les mois.
Plus les frais d'essence qui sont importants, votre mari nous en a parlé.
Oui, ouais, ben c'est un plein tous les 15 jours en gros. Et en faisant juste les navettes école, travail, courses quand il y a besoin d'aller en ville, mais sur un secteur d'une vingtaine de kilomètres en fait.
Vous, votre budget essence, il revient à combien par mois ?
Quand ça va bien, 150 euros.
Donc ça fait 10% de votre salaire.
Ouais.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup, ouais. Mais on n'a pas de transport en commun. Si on n'a pas de voiture, ben on ne bouge pas.
Ce mouvement des gilets jaunes, vous le comprenez ?
Bien sûr, bien sûr. Écoutez, à force de tirer sur la corde, elle finit par péter. Là, le carburant avait augmenté énormément. C'est 20 euros en plus à chaque fois. C'est quand même pas anodin. Hein. Sur des petits budgets, c'est pas anodin.
Ce mouvement des gilets jaunes met en lumière toute une classe moyenne qui travaille, mais qui a le sentiment de s'appauvrir. Est-ce que c'est votre sentiment ?
Oui, parce qu'aujourd'hui, quand il faut tirer un petit peu sur votre livret d'épargne, ben, on a beaucoup de difficultés à remettre l'argent qu'on a retiré. L'argent que vous avez de côté, le peu que vous pouvez avoir de côté, bouf, ça fond comme neige au soleil, et vous n'arrivez pas à refaire votre réserve. Moi, c'est le constat que je fais aujourd'hui.
Et par exemple, vous retirez un petit peu, c'est pourquoi ?
Un coup dur, hein, une machine à laver qui tombe en panne, une réparation... La vidange de la voiture, rechausser les gamins, c'est les rhabiller, ben on prend un petit peu, voilà. Moi, je m'aperçois que j'ai beaucoup de mal à remettre l'argent pour enflouer le livret, pour reconstituer les réserves, en fait.
C'est angoissant pour l'avenir ?
C'est angoissant pour l'avenir, oui, tout à fait.
Si vous fermez les yeux et que vous aviez un rêve à exaucer, ça serait lequel ?
Je crois que je n'en ai plus. Je suis un peu au fond, mais bon. Je relativise en disant que j'ai une famille géniale, j'ai des enfants adorables. Moi, je me recentre sur la famille.
Nous sommes toujours dans le département des Ardennes, mais un peu plus à l'est de Charleville-Mézières, dans le village de Vrignemeuse. Nous avons rendez-vous avec la sœur d'Anne. Elle s'appelle Céline, elle a 45 ans et elle est coiffeuse à domicile. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez partir au travail ?
Oui.
Parce que vous avez une première coupe à quelle heure ?
7h30.
D'accord, donc il faut se dépêcher là.
Oui.
Première cliente de la matinée.
Oui. On va à Viviercourt. Et on va aller chez Elena. Une petite mamie retraitée.
Ouais.
Oui.
On va vous faire belle.
Ben, on va essayer, quoi.
Ouais.
Oh, ben moi, pour rester à la maison, moi, je peux pas sortir, je n'arrive pas à marcher. Ah ben oui, il faut que je marche avec ça, autrement, je peux pas, hein. Ça fait 2 ans que je n'ai pas descendu en bas.
Ça fait 2 ans que vous n'êtes pas sortie ?
Oui.
Même pas la tête dehors ?
Non.
Non.
Non, même pas sur le balcon quand il est fait beau. Parce que j'ai la tête qui tourne.
Vous habitez à l'étage et il n'y a pas d'ascenseur.
Ah, non. Ben non.
Donc vous ne pouvez pas sortir de chez vous.
Ah, je ne peux pas sortir. Non, non. Il faut faire avec.
Ouais, alors, du coup, c'est la coiffeuse qui vient. Bon, c'est pas le tout, on est là pour travailler.
Ah, hein. Oh, ben oui, ben non. Moi, je suis là pour me reposer. Bon.
Je lui lave les cheveux et puis on revient là, de toute façon. Hein.
Faut attendre l'eau chaude.
Ah ben faut attendre l'eau chaude, oh non. Si, on a de l'eau chaude.
Bah, faut espérer, hein.
Ça n'arrive pas?
Non. Maison vieille.
Ouais, c'est pas très chaud, hein.
Voilà.
Elena, ça fait longtemps que Céline vous coiffe?
Oh oui, 15-20 ans.
Et vous la voyez tous les combien à peu près?
J'ai des fois tous les 3-4 mois. Là, c'était au mois de juillet.
Oui, mais bon, c'est pareil, Elena, elle n'a pas une grosse retraite.
Oh non,
hein?
Oh
ben
non.
Je pense que tous les mois,
Ah ben, je peux pas. Ah, je peux pas. Ah oh, ben non.
Elle est de combien votre retraite, Elena?
Dans les environs de 600 euros par mois. C'est la reversion de mon mari qui est décédé. J'ai travaillé dans une boulangerie à Brigny-aux-Bois, mais je n'étais pas déclarée.
À l'époque, ça se faisait beaucoup, hein?
Oui, oui.
Ah, parce que vous avez quel âge, Elena?
Moi, je viens d'avoir 80 ans.
Et comment vous faites pour vivre avec 600 euros? Est-ce que déjà vous êtes propriétaire de votre logement ici, de votre appartement?
C'est espace habitat.
C'est HLM?
C'est HLM.
Vous payez combien de loyer?
280 à 315. Ça dépend de la charge, comment on paye. Parce qu'on a des charges, on a l'eau, on a le chauffage.
Et ça dépend des mois, en fait.
Ça dépend des mois.
Donc, il vous reste 300 euros pour vivre.
Oh oui, il y a des fois à peine.
Oui, parce que tu as la mutuelle aussi.
Et puis la mutuelle.
La mutuelle, bon, ben, l'assurance habitation.
79 euros tous les 3 mois. Alors, sur un mois de retraite, il ne me restera du tout.
Donc, le coiffeur.
Ah ben.
Ah.
Et puis, il n'y a pas que le coiffeur. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas. Là, au mois de juillet. C'est les gamines qui m'avaient payé la permanence, Céline.
Ouais.
C'est Patricia qui avait fait le chèque. Hein. Mais autrement, ben non, il y a des fois, je ne peux pas. Hein.
Qu'est-ce que vous aimeriez, Elena? Que votre retraite augmente?
Ben oui, un petit peu quand même. Dans le temps de la grêle de 68, que toutes les usines, toutes les écoles, tout ça ont été fermées. Ça devait être De Gaulle qui était là à ce moment-là. Mais lui, il avait l'air encore d'écouter un peu les gens. Mais tandis que celui qu'on a là en ce moment, il n'écoute rien du tout.
Emmanuel Macron?
Oui.
Vous, Céline, vous ne gagnez pas énormément non plus. Ouais. Vous gagnez combien par mois?
Dans les 900 euros, quand je travaille bien.
Pourquoi aussi peu?
Ben parce que j'ai beaucoup de charges. La RSI, les assurances, il me reste que 900 euros de revenus.
Et vous travaillez à peu près combien d'heures par semaine?
Ça dépend des périodes. Il y a des périodes creuses où j'ai 5 ou 6 clients par jour. Et puis il y a des périodes où il y a un peu plus de monde. Je peux commencer à 7h du matin et rentrer à 8h du soir. Mais je ne compte pas mes heures. De toute façon, si tu veux gagner ta vie... Il ne faut pas compter ses heures, 8 heures par jour, tu ne gagnes rien, hein, de toute façon. Quand je me suis mis à mon compte il y a 20 ans, j'avais plus de travail. Hein, j'ai des clientes qui étaient salariées, je les coiffais tous les samedis, et maintenant qu'elles sont en retraite, j'y vais une fois de temps en temps. Elles ne peuvent plus se payer le coiffeur toutes les semaines. Et le coiffeur toutes les semaines, c'était un brushing, c'était 12 euros. Moi, je pars pas en vacances. Je suis pas partie en vacances. Ça fait 30 ans que je suis dans le travail. La seule fois où je suis partie en vacances, c'était 15 jours à Malaga. Et je ne suis jamais repartie en vacances. J'ai 45 ans. En fait, j'ai jamais rien vu, quoi. Je suis même jamais allée sur une plage en Méditerranée. La seule plage que j'ai vue, c'est le Touquet, Berck. Je suis pas malheureuse pour autant, hein, c'est pas la question. Mais je me dis, arrivée à 30 ans de travail et puis 45 ans, t'as même pas les moyens de partir en vacances.
Ici, c'est la vallée de la Meuse qui s'étend de Charleville-Mézières à la frontière belge. C'est le lever du jour. Il y a la lumière rose qui rase les arbres. Dans le passé, la vallée de la Meuse était un bastion de la métallurgie. Mais de nombreuses usines ont fermé. Et aujourd'hui, le taux de chômage y est très élevé. Le mouvement des Gilets jaunes est très populaire et très suivi ici. Nous venons d'arriver à Fumet, tout près de la Belgique. C'est une ville de 3 500-4 000 habitants. Il y a encore des commerces en centre-ville, mais plusieurs maisons en briques tout autour ont l'air inoccupées.
Allez-y, rentrez !
Merci. Nous avons rendez-vous avec Katia Gugère. C'est l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes dans le nord des Ardennes.
Ah, je fais la bise, allez. Meilleur vœu ?
Meilleurs vœux à vous aussi.
Une bonne santé surtout.
Plein de bonnes choses.
Allez-y, rentrez. Ah, oh, Icar, à ta place.
Bonjour. Donc vous avez trois enfants.
Trois enfants.
Et vous avez l'arbre de Noël qui est encore là.
Oui, encore, ouais. Remarquez le coup quand même, hein, même si, vous savez, je l'ai mis très 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 tard. Le dimanche avant Noël.
Que vous n'aviez pas la tête au fait. Vous êtes engagée depuis le début dans le mouvement des Gilets jaunes.
Depuis le 17 novembre, ouais, exactement. Donc, qui fait à peu près quasi 2 mois. Ouais.
Là, vous allez emmener votre fille à l'école.
Oui.
Et ensuite
aux impôts, pour bloquer les personnes qui se rendent pour remplir les papiers.
Merci, merci.
Bonjour, messieurs, dames.
Bonjour.
Ils ont fermé, ils sont fermés, les gens, ils répondent même pas au téléphone.
C'est à cause des Gilets jaunes.
Oui. Bon.
Bonjour, monsieur là.
Bonjour, Katia.
Ça va?
Et toi?
Et vous?
T'as pas amené le braserot? Ou c'est qui sont les braserots?
C'est Aldo qui l'a repris, je crois.
Ah.
Ouais.
Katia, vous êtes dans le mouvement depuis le 17 novembre. Qu'est-ce qui vous motive pour venir tous les jours manifester? Qu'est-ce qui vous motive?
Ce qui me motive, c'est retrouver les personnes qui sont là depuis le 17 avec moi et puis dire qu'on n'arrête pas, même s'il fait moins 3, peut-être moins 2, moins 3, oui, on a froid, mais si on ne fait pas ça, on n'aura rien. On est tous dans une vie où on est un peu égoïste, chacun pour soi, on ne s'occupe pas du voisin et de la voisine. Et là, c'est vrai que on est tous réunis. Enfin, moi, depuis le 17, j'ai appris à connaître des personnes que je ne connaissais pas du tout. Et pourtant, ils habitent Fumet. Et Fumet, ce n'est pas une grande ville.
Vous êtes mère au foyer, vous élevez vos trois enfants. Ce mouvement, ça vous fait sentir moins seule?
Oui, c'est vrai que quand je dois rejoindre le mouvement, ben oui, je sais que je vais être, il va y avoir du monde et la journée va être moins peut-être monotone que quand je suis à la maison ou on fait son petit train-train quotidien, oui.
Comment allez votre vie? Comment vous vivez, vous?
On fait attention. Ça, c'est sûr, on fait attention. On a la chance d'être propriétaire depuis 7 ans. Après, c'est tout un calcul. Hein. Les loisirs, on n'en a quasi pas, je vais dire. Après, c'est pas évident quand on a des enfants qui nous disent « Maman, voilà » ou « Tiens, on ferait bien ça » et on dit « Non, on peut pas parce que le budget est serré. » quoi.
Ils aimeraient aller où, vos enfants?
Par d'attraction. Disneyland, enfin voilà, petite Disneyland. Enfin voilà, après, peut-être qu'un jour, hein, peut-être qu'on arrivera où on aura une situation plus confortable.
Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est dégradé pour que le mouvement des Gilets jaunes existe cette année et pas il y a 5 ans?
Les taxes. C'est vrai que les taxes, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hein. Je veux dire, vous avez pu vous apercevoir ici, la voiture, on en a besoin. On a bien les trains, mais les trains, ça ne correspond pas avec les heures des ouvriers. Ça. Donc la voiture est indispensable. Après, on ne peut pas dire que c'est de la faute de M. Macron, de ce qui se passe. Ça dure depuis 30-40 ans. Et là, on se retrouve avec, au fil des années, des présidents qui serrent un peu la vis. Et je pense que M. Macron, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Quoi.
Il cristallise beaucoup de mécontentement, de la haine. Comment vous l'expliquez?
Il est très arrogant, sourire narquois. On est des haineux, on est des homophobes, on est des... Jamais ça. Enfin, moi, je suis pas de ce bord-là, quoi. Donc, et c'est vrai qu'il est, il est très arrogant.
Vous la voyez comment, la suite du mouvement ?
J'ai peur. J'ai peur. Ouais, j'ai peur parce que je pense que ça va tourner... la violence va être plus présente. Parce qu'on n'a pas l'impression d'être entendu. Parce que ça peut se comprendre. Il y a des gens qui sont au bord du gouffre et qui en ont marre, tout simplement. Il y a des gens, ils survivent. Ils vivent plus, ils survivent.
Depuis la diffusion de ce reportage le 20 janvier, soit 3 mois après le début du mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement a pris des mesures, débloqué des fonds pour améliorer la situation. Reste à savoir si ces mesures seront suffisantes pour apaiser la colère de l'automne dernier. Gilets jaunes, l'envers des ronds-points, c'est un reportage de Géraldine Allo et Vanessa Descoureaux. Prise de son Jean-André Giannichini, mixage Jean-Philippe Jeanne, réalisation Violaine Ballet, assistée de Stéphane Combe. À la semaine prochaine.